Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel Dévoret.
Bonjour, merci de participer à ce cours. Donc, dans cette cinquième leçon, nous allons aborder le problème des algorithmes. Comme à chaque fois, je vous invite à... Je vous montre notre adresse web à laquelle vous pouvez envoyer vos commentaires ou vos questions. Donc, le programme d'aujourd'hui consiste à expliquer comment les interactions entre qubits, comment les processus physiques au sein des circuits peuvent être concaténés pour faire des opérations logiques. C'est pour cela que j'ai intitulé le titre de cet exposé « Algorithmes ». Vous allez voir, ce n'est pas des algorithmes très compliqués. On ne va pas faire, par exemple, l'algorithme de factorisation des nombres en nombre premier. On va se contenter d'algorithmes plus simples à un petit nombre de qubits pour des opérations élémentaires. Mais le but ici, c'est de vous montrer comment on passe de processus physiques élémentaires à une opération logique sur des exemples simples. Voilà, c'est le but de cette leçon. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Léo Di Carlo, qui a travaillé à Yale sur ces circuits et qui est en route en fait pour Delft, où il va prendre un poste de professeur dans quelques semaines. Aujourd'hui, la situation n'est pas comme d'habitude. Ce séminaire est en liaison directe avec le cours d'aujourd'hui. C'est vraiment donc le cours. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est en fait un seul cours en deux parties. Une partie qui va vous expliquer ces notions de concaténation des opérations élémentaires pour faire un algorithme. Et dans la seconde partie, dans l'exposé de Léo, vous allez voir vraiment l'expérience en détail. Donc, comme je le disais, donc, la question, c'est comment prendre un processus réversible contrôlé dans un circuit, donc une série, disons, de composants hardware qui vont interagir de manière réversible en obéissant aux lois de la mécanique quantique, et comment, finalement, cette séquence de processus réversibles peut faire un calcul. Alors, dans ce but, je vais passer en revue une partie de ce qu'on a traité dans les cours précédents. On va revoir les opérations logiques élémentaires et leur implémentation physique. Et puis, je vais vous parler de la façon dont on fait une opération simple comme le contrôle nom, qui est en fait, comme je l'avais expliqué dans la première leçon, en fait l'addition modulo 2. Donc, on va voir comment se fait une opération logique élémentaire, l'addition. Il y a une porte qui n'a pas de contrepartie vraiment en logique booléenne, qui est cette porte qui s'appelle la porte contrôle phase, qui sert dans de nombreux algorithmes et que je vais traiter en parallèle parce que ces deux portes, en fait, sont très reliées. La deuxième fonction que je vais vous montrer, c'est la préparation d'un état quantique intriqué à 3 qubits. Et cette préparation est importante parce que cet état intriqué à 3 qubits, donc l'état Greenberger, Horn et Zeilinger, est l'état intriqué minimum que vous devez savoir réaliser pour la correction quantique d'erreur. Les algorithmes de quantique d'erreur commencent avec une intrication à 3 qubits. On ne peut pas corriger des erreurs avec 2 qubits seulement. Donc cette préparation joue un rôle particulier et je vais la traiter en vue de la dernière leçon qui sera consacrée à la correction quantique d'erreur, qui est vraiment qui sera l'aboutissement de cette série de leçons. Enfin, il y a une fonction, il y a une une fonction logique intéressante qui ne nécessite pas un grand nombre de qubits, qui est la téléportation, et que je vais traiter aussi ici. Là, il s'agit moins de calcul que de communication, mais c'est aussi un problème informationnel que l'on va voir traiter en détail comme une succession d'interactions élémentaires. Voilà le programme d'aujourd'hui. Donc, rappelons quelles sont les portes de base, quelles sont les opérations de base qui correspondent à un processus physique élémentaire. C'est ce que j'appelle des primitives, c'est les primitives du calcul. Et pour l'instant, je me limite donc à ces opérations dites de Clifford, qui, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, sont soit des rotations de pi, soit des rotations de pi sur 2. Donc si vous vous limitez à des rotations d'angle pi ou pi sur 2, vous faites un ensemble d'opérations qui constituent un groupe fini, qui est le groupe de Clifford, qui évidemment ne vous permet pas de vous promener de manière fine dans l'espace de Hilbert du système. Vous atteignez que certains points discrets, mais ces points discrets déjà représentent une possibilité d'évolution de calcul très intéressante, et les algorithmes que je vais présenter aujourd'hui font partie de cette série d'opérations qu'on peut réaliser à l'intérieur de ce groupe fini. L'avantage aussi de ce groupe fini, c'est qu'on peut y tester les opérations de façon très simple. Donc, pour le point de vue des ingénieurs, c'est absolument crucial de commencer à savoir réaliser ces opérations avant de se lancer dans des opérations plus fines qui vous permettent d'atteindre en quelque sorte la chair qui se trouve entre ces points squelettes dans l'espace de Hilbert. Alors, donc, on a ici deux opérations élémentaires, qui est l'opération qu'on appelle poly z ou poly x, ou simplement z et x. Ce sont des rotations de pi autour soit de z, soit de x. Ici, vous avez les rotations de pi sur 2 autour du même axe. Il est aussi pratique d'introduire des rotations de pi sur 2 autour de y. Alors, ces boîtes ici, qui sont à cheval sur un fil qui représente un qubit, sont des opérations à un qubit. On tourne un seul qubit à la fois. Et pour permettre d'atteindre l'ensemble des états de Clifford, il faut adjoindre une porte, nécessairement une porte à deux qubits, que je note avec ce symbole ici, qui n'est pas satisfaisant. À ma connaissance, personne n'a trouvé vraiment un bon symbole pour les portes à deux qubits. Et je vais vous montrer, pour vraiment comprendre ce qui se passe ici, il faut avoir la traduction algébrique de ces opérations. Donc ici, cette boîte sur le premier qubit correspond à cette opération qui est donc une rote qui explicite le fait qu'ici on tourne le premier qubit et on laisse le second invariant. Et si on regarde cette opération ici, on voit que en fait il s'agit de l'opérateur de poly ZZ, donc qui agit sur les deux qubits à la fois, qui est exponentié à la puissance 1/2. C'est-à-dire qu'on laisse agir l'interaction entre deux qubits pendant un temps qui correspond à la moitié d'un flip. C'est-à-dire que l'exposant 1 ici veut dire qu'on effectue un flip du système, on le tourne de pi. Donc par exemple, un spin-up devient un spin-down, ça s'est effectué par cette opération Ix. Mais quand vous avez un exposant 1/2, vous laissez agir l'hamiltonien pendant la moitié du temps qui correspond à un flip, c'est-à-dire que vous faites une rotation de pi sur 2. Donc toutes les fois où vous voyez un exposant 1, il s'agit d'une rotation de pi, et quand vous voyez un exposant 1/2, c'est une rotation de pi sur 2. Mais celle-là, elle est en quelque sorte spéciale, parce que c'est une rotation de pi sur 2 autour d'un axe assez abstrait, qui est un axe de corrélation entre les deux qubits, puisqu'on agit sur les deux qubits par cet opérateur ZZ. Donc j'attire votre attention, c'est important de comprendre que cette opération n'est pas simplement cette opération-là sur le premier, effectuée simultanément avec la même sur le deuxième qubit. Ce n'est pas simplement deux opérations, deux rotations autour de l'axe Z effectuées simultanément sur les deux qubits à la fois. C'est une opération qui est conditionnelle, comme on va le voir dans un instant. C'est une opération qui mélange, qui va intriquer les deux qubits, qui va produire de l'intrication, alors que si vous effectuiez simplement cette opération Z1,5 sur chacun des qubits à la fois, vous ne produiriez pas d'intrication. Donc c'est un peu ce que cherche à capturer cette boîte qui est à cheval sur les deux fils. Il y a aussi quelque chose qui doit vous alerter ici, c'est que dans cette algèbre de ces opérateurs de Pauli, cette puissance 1,5 ne peut pas être distribuée sur chacun des opérateurs. Bon, il ne faut pas croire que ZZ à la puissance 1,5, c'est la même chose que Z à la puissance 1,5 fois Z à la puissance 1,5. Bon, c'est un peu dans cette optique qu'il n'y a qu'un exposant 1,5 seulement, et vous voyez, graphiquement, il est en gris ici pour montrer qu'il faut faire attention, il ne faut pas distribuer un exposant 1,5 pleinement colorié sur les deux. Bon. Si vous avez des suggestions pour améliorer ces notations, elles seront les bienvenues. Je pense, à ma connaissance, aucun auteur a vraiment résolu ce problème de la représentation graphique de cette opération d'interaction. Alors, dans la liste, ici, j'ai fait figurer aussi cette opération de Hadamard, qui est souvent, je le donne là pour mémoire, parce que si vous ouvrez des articles sur l'information quantique ou des livres, vous verrez cette opération très souvent mentionnée comme primitive, mais en fait, en ce qui nous concerne, c'est plutôt déjà une opération qui fait intervenir trois opérations élémentaires. Si vous voulez réaliser cette porte de Hadamard qui intervertit la direction X et la direction Z, eh bien, en fait, en pratique, il faudra concaténer ces trois opérations. Donc, je la mentionne ici, mais à mon avis, dans nos circuits quantiques, ce n'est pas véritablement une porte de base. Et vous, en fait, souvent, on peut la remplacer d'ailleurs par cette porte Y, racine de Y. Donc, si on se limite à ces opérations, on engendre un groupe fini qui, pour deux qubits, est déjà assez énorme. Il y a 11 500 et quelques éléments. Simplement, donc vous avez déjà une grande richesse d'opérations possibles, même avec deux qubits. Et évidemment, si vous augmentez le nombre de qubits, vous avez ce nombre d'opérations croît exponentiellement, il croît comme l'exponentielle de n carré, c'est-à-dire avec le même genre de croissance que le nombre d'états. Voilà représenté de manière géométrique, encore une fois, ces portes. Donc vous avez la porte Z, la porte X et la porte de Hadamard sont des rotations de pi. Elles sont représentées ici par ces petits systèmes de coordonnées. Donc vous voyez, Z, c'est simplement une rotation de pi autour de l'axe Z. Ici, X fait la même chose, mais autour de l'axe X. Et on voit que la porte de Hadamard n'est pas simple en termes de direction, puisque c'est bien une rotation de pi, mais autour d'un axe qui est la diagonale dans le plan ZX, c'est-à-dire qu'elle intervertit X et Z, vous voyez, Z devient X et X devient Z, mais Y est changé en moins Y. Donc elle est très pratique sur le plan algorithmique, mais en fait elle n'est pas du tout facile à réaliser parce que cet axe, en fait, qui est une bisectrice ici, n'est pas en quelque sorte un axe propre du système. Voilà, donc ça c'est les rotations de pi. Pour avoir un système complet, il nous faut des rotations de pi sur 2 aussi. En quelque sorte, c'est, sur le plan pratique, c'est assez simple. Si vous savez faire une rotation de pi, eh bien, vous faites agir cette rotation de pi sur pendant un temps deux fois plus petit et vous obtiendrez une rotation de pi sur 2. En pratique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que vous ajustiez bien les angles pour faire précisément pi sur 2. Il peut y avoir des effets de bord que vous devez corriger. Mais enfin, voilà ce qui se passe ici. Donc, on a une rotation autour de l'axe Z ici, mais de pi sur 2 seulement. La rotation de pi sur 2 autour de X porte ce nom assez poétique de racine du nom que je appelle ici. Comme c'est un demi-flip, finalement, du qubit, on peut voir ça comme la racine du nom. Si vous itérez cette porte deux fois, si vous la faites deux fois, vous ferez un nom. En fait, si vous tournez autour de x plutôt que de y, vous faites aussi un racine de nom, mais avec un facteur de phase. Donc, c'est plutôt un i-nom ici. Et si vous regardez la façon dont les opérateurs, les générateurs élémentaires Z et X sont transformés, vous voyez que c'est presque une porte de Hadamard. Z est transformé en X. X n'est pas transformé en Z, mais en moins Z, ce qui, dans beaucoup de calculs, peut suffire. Voilà. Alors, pour vraiment compléter le système, il faut une porte qui a deux qubits, et c'est cette porte ZZ à la puissance 1,5 ici que l'on va prendre. Et la dernière fois, j'avais expliqué comment physiquement, en fait, elle était facile à réaliser, et Léo tout à l'heure va vous montrer en détail comment ça se fait. C'est une porte qui est engendrée par un Hamiltonien élémentaire, c'est un Hamiltonien donc d'Ising, où on prend les composantes suivant Z des deux spins, elles se multiplient, c'est l'interaction la plus élémentaire auquel vous pouvez être confronté. Bon. Et puis vous faites agir cette interaction pendant un temps qui correspond à un demi-flip. Voilà. Voilà cette primitive de porte à deux qubits qui va nous servir par la suite. Comment elle agit sur les générateurs élémentaires? Vous voyez que pour les générateurs Z, elle ne fait rien. Par contre, IX va être transformé en un générateur à deux qubits, c'est-à-dire que c'est là où on voit la façon dont cette porte, finalement, fait de l'intrication. Elle prend un générateur à un qubit et elle le transforme en un générateur à deux qubits. Même chose pour l'autre. La situation est bien sûr symétrique. Ce que cette porte fait sur le premier qubit, elle le fait aussi sur le second. Et en appliquant les règles de calcul de Clifford, on peut comme ça calculer ce que cette porte fait sur tous les générateurs et donc savoir comment vont se transformer tous les états. Puisque si on sait transformer les générateurs, ici, on sait transformer les stabilisateurs et on a vu précédemment qu'un stabilisateur était équivalent à un état. Donc, vous voyez par exemple ici, lorsqu'on fait agir cette porte ZZ puissance 1,5, racine de ZZ sur IY, IY concerne le second bit, eh bien, vous transformez Y en X, c'est exactement comme si vous aviez fait un produit vectoriel, mais vous avez multiplié le premier opérateur I par Z. Donc, c'est des règles de composition très simples. Bon, il faudrait pouvoir faire un certain nombre d'exercices ici pour être familier avec ces règles. Mais enfin, le message que je veux faire passer, c'est que finalement, ces règles algébriques sont très simples. Avec un peu d'entraînement, on les maîtrise parfaitement. Et donc, c'est très précieux parce qu'elles permettent de calculer très rapidement les états que vous engendrez par toutes ces opérations. Par des calculs qui sont beaucoup plus rapides que si vous utilisez le formalisme habituel de la mécanique quantique. Donc ces règles, elles sont très simples. Donc si vous faites agir une opération de pi, une rotation de pi sur un opérateur quelconque A de Pauli, eh bien vous le transformez en moins A si B ne commute pas avec A, et vous laissez cet opérateur identique à lui-même si, si A et B commutent. Si par contre vous faites une opération, une rotation de pi sur 2, avec, sur un opérateur qui ne commute pas avec l'axe ici de la rotation. Hein, si vous voulez, vous pouvez voir la, l'opérateur entre, dans, à l'intérieur des crochets comme l'axe de la rotation. Eh bien, vous appliquez tout simplement les règles du produit vectoriel. Vous faites le produit de B par A, qui pour ces opérateurs ici correspondent au produit vectoriel. Et si les opérateurs commutent, eh bien, vous ne faites rien. C'est assez simple. En gros, on ne fait rien si on commute, et si on ne commute pas, on effectue la multiplication au sens du produit vectoriel. Par exemple, voilà un exemple élémentaire, la porte racine de z appliquée à x, eh bien, fait du y. Vous voyez, j'ai appliqué les règles du produit vectoriel. Alors, dans les calculs, il faut quand même, il y a certaines relations qui sont intéressantes. Et là, ça vous montre que les opérateurs de Pauli ne sont pas des nombres ordinaires. Vous voyez, par exemple, si vous effectuez une anti-rotation, donc par alpha, ça revient à changer la direction de l'axe. Si vous pensez à ces opérations en termes de rotation, ce genre de petite règle, en fait, est assez logique. Mais si vous pensez à ces calculs en termes de symboles algébriques ordinaires, vous pouvez être surpris. Alors, muni de ces éléments, on peut voir comment préparer cette porte contrôle note. Donc le contrôle nom, ou simplement l'addition modulo 2, ou encore une façon de décrire cette porte, c'est un OU exclusif. Pour parler de cette porte, il faut que j'introduise maintenant une notion supplémentaire, qui est la notion d'opération contrôlée. Donc si vous avez une opération à 1 qubit, que j'appelle A, on peut définir l'opération sur A contrôlée par le bit C ici. Donc il y a un fil et ici un fil de contrôle. La notion de contrôle ici est représentée par le point. Cette représentation signifie qu'on va faire A si C vaut 1 et on ne fera rien si C vaut 0. Alors, quantiquement, ce que je viens de dire est un peu compliqué, ça s'écrit comme ça. Donc, on prend, maintenant, C peut avoir une fonction d'onde, il peut y avoir une superposition de 0 et de 1, et l'amplitude du 0 correspondra à une opération où on ne fera rien, parce que B ici sera 0, et donc A à la puissance 0, c'est l'identité. Par contre, dans le terme B, où B vaut 1, eh bien, on fera l'opération. Donc, voilà. Et cette notion d'opération contrôlée, elle est très importante parce que c'est la base de l'intrication. Pour intriquer deux qubits, eh bien, il faut que l'un contrôle une opération à 1 qubit sur l'autre. Et vous allez voir aussi que l'addition modulo 2, c'est une opération contrôlée. En effet, qu'est-ce que c'est que le contrôle nom? C'est le fait que ce bit cible ici, T, on lui ajoute C. En quelque sorte, on le flippe si et seulement si C vaut 1. Sinon, on le laisse tel quel. Dans cette opération d'addition, comme on doit avoir une opération réversible, C doit poursuivre sa vie et rester identique à la fin de l'opération. Donc C donne C, par contre, le bit cible, à lui, on lui ajoute C. Il y a deux notations pour cette porte contrôle-nom. Ça, c'est une représentation qui est très proche, disons, de la vision classique du problème. Vous voyez, on a ce point signifie le contrôle. On prend le bit ici, il sert de bit de contrôle. Et ici, cette croix ici on se réfère à l'addition de 1 modulo, à l'addition modulo 2. Dans le langage quantique, la même porte sonne plutôt comme ça. Vous voyez que c'est une opération X, c'est un flip du qubit contrôlé par le fil de contrôle. Alors, cette porte du contrôle nom a une contrepartie. Vous voyez, on peut faire, au lieu de contrôler l'opération X, on peut contrôler l'opération Z. Alors, l'opération Z n'a pas d'équivalent classique. L'opération Z consiste en une rotation autour de Z, de pi autour de Z. Et cette porte s'appelle contrôle phase. C'est quelque chose qui va intervenir beaucoup dans l'exposé de Léo tout à l'heure. On peut représenter ces opérations par des matrices dans le langage ordinaire de la mécanique quantique. Et vous voyez que dans la base des états de calcul, eh bien, le contrôle nom intervertit ces deux quêtes. Vous voyez, ça laisse invariant les deux premiers et ça intervertit les deux secondes. La matrice contrôle phase, elle prend une allure sympathique puisqu'elle est entièrement diagonale. Donc l'opération ici ne se distingue de l'identité que par le fait que vous avez un signe moins ici pour cette dernière ligne et cette dernière colonne. C'est-à-dire que vous ne changez la phase du système que si vous êtes dans cet état 1-1. Sinon, vous le laissez identique à lui-même. Voilà. Voilà ces portes, disons, ces opérations, c'est un peu logique, élémentaire. Donc, en principe, je devrais commencer par vous expliquer comment fait le contrôle note, puisque c'est ça, c'est le but, c'est l'addition modulo 2, mais vous allez voir qu'il est quand même plus simple de commencer par comprendre comment se fait cette porte ici. Là, on a besoin d'une notion absolument fondamentale, une notion cruciale, qui est finalement comment on va implémenter de manière hamiltonienne cette notion d'opération conditionnelle. À quoi ça correspond finalement de faire une opération si et seulement si un qubit est dans un certain état? Comment ça se traduit dans le langage ordinaire de la mécanique quantique? Alors, là, je vous demande toute votre attention parce que il y a un point de délicat, extrêmement délicat, dans ces idées. Alors, si on voulait faire une opération non conditionnelle, une opération de rotation, nous avons vu qu'elle se note finalement en prenant un opérateur et en l'exponentiant finalement. Cette exponentiation consiste finalement à faire agir un certain hamiltonien pendant un certain temps. Donc bêta, ici, vous pouvez le voir, cet exposant bêta, vous pouvez le voir comme un certain temps pendant lequel vous agitez. Maintenant, on va généraliser cette idée de temps, hein, qui est un scalaire ici, et on va se dire, oui, ben, ce temps pourrait être un opérateur, c'est-à-dire on pourrait agir suivant un temps variable, variable et conditionné par quelque chose d'autre. Donc, remplaçons cet opérateur bêta, ici, par un opérateur de Pauli, qui, finalement, va avoir des valeurs différentes suivant l'état d'un qubit. L'opérateur B peut sonder un autre qubit. Et vous voyez que comme ça, on aura une opération conditionnelle. Je ferai A si cette valeur de l'opérateur B fait 1, mais je ne ferai rien du tout si B vaut 0. Alors, ça paraît être marché, mais vous voyez que ça a des conséquences profondes qui, en fait, qui correspondent à de la physique vraiment de base. En fait, vous voyez qu'il y a une symétrie ici entre A et B dans l'exposant. Donc, en fait, si je reprends mes notations, A à la puissance B, ça n'est rien d'autre qu'une rotation autour de AB. Mais je peux effectuer finalement cette transformation à l'envers, et vous voyez que A à la puissance B, c'est la même chose que B à la puissance A. Ça paraît, algébriquement, ça paraît complètement aberrant. Mais rappelez-vous que A et B sont des opérateurs qui sont basés sur les opérateurs de Pauli. Donc, les opérateurs de Pauli ne sont pas n'importe quel opérateur, ce ne sont pas n'importe quel symbole. Et c'est ce qui explique que cette relation ici peut être vraie. Mais ceci a des conséquences profondes. Vous voyez que si vous faites l'opération A conditionnée par B, eh bien, vous allez faire en même temps l'opération B conditionnée par A. Cette notion de condition classique, qui est en quelque sorte asymétrique, quantiquement, elle ne peut pas exister. Il y aura, si vous effectuez une opération conditionnelle, si vous faites A conditionné par B, eh bien, vous ferez B conditionné par A. C'est absolument inévitable. C'est très simple. Ce que vous voyez là en marche, c'est simplement le principe d'action-réaction. C'est quelque chose qu'on apprend très tôt à l'école. Si deux particules interagissent, eh bien, si A modifie B, eh bien, B modifie A. C'est ce qu'on appelle le principe d'action et de réaction, qui est valable classiquement et quantiquement. Et c'est pour ça que vous avez cet effet. Ça change beaucoup la façon dont vont s'effectuer les calculs. Ça va amener certaines restrictions, mais ça va amener aussi certaines richesses. Alors, essayons de voir comment on peut maîtriser ce phénomène. Donc, là, vous voyez en mots ce que je viens de dire. Le principe d'action et de réaction va nous donner une contrainte forte sur la façon dont on fait des calculs avec des degrés de liberté élémentaires. Et si on veut essayer de rendre la situation un peu asymétrique, eh bien, le mieux qu'on puisse faire, c'est cette combinaison. On peut prendre A, soustraire l'identité, élever ça à la puissance B. Qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça veut dire que ça dissymétrise un peu la chose, de la manière suivante. Si A vaut 1, si A vaut l'identité, eh bien, on ne fera rien sur B. Mais si A ne vaut pas l'identité, si, par exemple, le spin est retourné, eh bien, vous ne pourrez pas empêcher cette action en retour. Donc, si vous voulez, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de minimiser cette action en retour, mais on ne va pas complètement l'éliminer. Il va rester toujours des traces de cette action en retour, quoi que l'on fasse. Tout ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de réaliser des portes qui, plus ou moins, respectent la table de vérité classique pour un certain nombre d'états. Voilà. Donc, voilà, j'en arrive finalement à la façon dont on va faire un contrôle A en général, où A peut être n'importe quelle opération. Il va falloir effectuer cette opération IA ne fait rien sur le premier qubit, elle fait A sur le second. Je soustrais l'identité, bon, que je note ici par II, et j'élève tout ça à la puissance II moins ZI sur 2. Pourquoi ? Parce que notre programme ici consiste à faire A si le bit C vaut 1 et rien du tout si le bit fait 0. Mais rappelez-vous, le bit, en fait, c'est un spin. Le spin a une projection qui vaut soit plus 1, soit moins 1. C'est ce que mesure cet opérateur ZI. Donc, pour ne rien faire si le spin est up, eh bien, il faut que je soustraie ici cette identité. Donc, voilà comment se fait, comment doit se faire, finalement, cette opération contrôlée pour qu'elle reproduise le mieux possible ce qu'on attend d'elle dans le cas classique. Hein ? Donc c'est par cette formule qu'on va atteindre, au moins qu'on va établir un contact avec ce qu'elle doit faire dans le cas classique. Après, dans le cas quantique, elle va pouvoir faire peut-être des choses inattendues. Mais voilà comment ça se passe. Donc, en transformant l'exposant, eh bien, avec un petit calcul élémentaire, vous voyez que cette opération de contrôle A, eh bien, ça va être la succession de trois portes. Une porte à 2 qubits, qui va être l'opération ZA à la puissance moins 1,5, une racine de ZA. Mais vous devez suivre cette porte à 2 qubits de porte de correction sur le premier et sur le second pour respecter la table de vérité classique. Donc vous voyez que déjà, l'addition modulo 2, ça va faire intervenir trois opérations. Voilà, donc voilà, c'est en schéma, voilà finalement comment ça va se passer. Si vous voulez faire ce contrôle-là, eh bien vous devez faire cette porte à 2 qubits suivie de 2 portes à 1 qubit. Vous voyez que comme z, racine de z commute avec 1 sur racine de z, eh bien en fait vous pouvez prendre ces portes à 1 qubit et les faire avant ou après. Vous avez cette liberté. Puisque finalement, cette opération commute avec celle-là, ainsi qu'avec les trois opérations commutent ici, donc vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Ça introduit un élément de souplesse dans le système. Ça vous permet de regrouper certaines opérations et de simplifier les calculs. Alors, bon, ça c'est la théorie du vélo à N roues. Maintenant, appliquons-la à la bicyclette, c'est-à-dire, disons, au contrôle. On contrôle phase, hein, qui est la porte la plus simple, où là, finalement, vous voyez, il n'y a que des Z dans cette porte. On fait cette opération élémentaire qui est donc cette porte d'Ising, et puis on la fait suivre de deux Z à la puissance 1. On peut voir sa table de vérité. Vous voyez que elle ne fait rien si vous êtes dans l'état up ou down. Par contre, si vous avez votre spin qui est dans le plan équatorial, eh bien vous allez fabriquer un état intriqué avec cette porte. Est-ce que tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, ça peut se comprendre dans des termes plus simples? Oui, bien sûr. En fait, vous voyez, si vous faites agir cet Hamiltonien, vous voyez que cet Hamiltonien, ici, il ne vaut 1 que si à la fois le premier qubit et le second qubit vaut 1. Donc on fait quelque chose uniquement si les deux qubits sont 1. Et vous voyez, vous pouvez vérifier explicitement que eh bien, cet ensemble de portes réalise bien cette matrice que j'avais annoncée comme la matrice du contrôle phase dans le langage habituel. Donc c'est un peu une vérification pour voir si ces opérations de contrôle se font bien comme on pense. Vous voyez d'ailleurs à quel point cette notation est un peu perverse, parce qu'elle semble indiquer qu'il y a une asymétrie entre le bit de contrôle et le bit cible. Mais vous voyez que, en fait, la façon dont on fait cette opération, elle est complètement symétrique dans les deux qubits. Donc le bit de contrôle et le bit de cible peuvent vraiment s'échanger. Il n'y a aucune raison cette opération peut très bien se noter comme ceci ou comme cela. Elle est complètement... on voit tout à fait cette symétrie parfaite entre le bit de contrôle et le bit cible. Mais vous allez voir que cette contre-réaction d'un bit sur l'autre est absolument générale. Maintenant, on en sait assez pour réaliser le contrôle non, l'addition modulo 2. Et ce qui, vous voyez, en appliquant les mêmes règles, on doit faire une porte à 2 qubits, mais qui consiste à prendre ZX et à l'effectuer pendant un temps correspondant à demi-flip. Mais ZX peut être transformé en une porte plus simple. Si on, comme on ne sait faire que ZZ, il suffit d'encadrer cette porte racine de ZZ par des rotations autour de Y, de pi sur 2 dans un sens et de pi sur 2 dans l'autre sens. Donc voilà finalement le contrôle non ou l'addition modulo 2. Voilà l'algorithme élémentaire pour faire l'addition modulo 2 en termes d'opérations de base. Vous voyez, ça, vous en avez 4 en tout. Donc il faut être capable de faire une séquence de 4 opérations pour effectuer un contrôle non, l'addition modulo 2. Si on prend la table de vérité de cette opération dans le langage des stabilisateurs, ces lignes de la table ici sont tout à fait conformes à ce que l'on attend sur le plan de l'algèbre de Boole. Par exemple, que xi se transforme en xx, c'est très normal. Ça veut dire que si vous faites un flip du bit de contrôle, vous entraînez dans ce flip aussi le bit cible. Donc cette ligne est tout à fait conforme à l'intuition. Par contre, les règles, ces règles quantiques, le fait que, par exemple, ces deux opérateurs ici doivent toujours commuter, vous entraîne cette règle-ci qui est justement un contrôle phase à l'envers. Vous voyez, si vous faites une rotation de la phase du deuxième qubit, du qubit cible, eh bien, vous allez faire une rotation de phase du premier. Vous voyez le fait que finalement l'opération se fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un contrôle non, c'est aussi à l'envers une espèce de rotation de phase conditionnelle. Ça se voit de cette façon. On peut, en utilisant cette décomposition, démontrer ces relations très intéressantes. Vous voyez que ce contrôle non, ici, on peut remplacer le X ici par un Z encadré par deux portes de Hadamard. Ici, c'est plus simple d'employer la porte de Hadamard. Vous voyez, parce que la porte de Hadamard échange Z et X. Donc, à l'entrée, vous échangez Z et X, ou X et Z. Vous faites cette opération sur Z et vous repassez à X. Donc, c'est tout à fait plausible d'effectuer cette décomposition. Mais là, ce contrôle Z, en fait, on peut l'inverser. Donc, vous voyez que, finalement, le contrôle non, c'est aussi un contrôle Z à l'envers, à condition d'encadrer le bit de contrôle, le bit cible ici, par deux portes de Hadamard. Donc, cette action en retour de la cible sur le contrôle est un phénomène de base de tout calcul quantique. Et il faut, bien sûr, en tenir compte. Et en même temps, ça offre de nouvelles possibilités. Alors, ces nouvelles possibilités, c'est justement la préparation d'états intriqués, non classiques. Et très brièvement, je vais vous parler de ces états parce qu'ils jouent un rôle très important à la fois dans les codes correcteurs d'erreurs, comme je l'ai indiqué, mais aussi dans les tests de la mécanique quantique. Alors cet état appelé GHZ est simplement une superposition des trois qubits dans l'état 0,0 avec les trois qubits dans l'état 1. Cet état a un état conjugué où le signe plus ici est changé en signe moins. La façon dont on peut voir cet état, c'est que c'est le seul état qui a les propriétés suivantes. Vous avez la parité des bits de deux bits voisins, par exemple le bit de droite et le bit du milieu, doivent être 1. C'est-à-dire que si l'un est up, l'autre doit être aussi up. Et si l'un est down, l'autre doit être down aussi. Donc ça se note par le fait que cet opérateur IZZ, qui mesure la parité des deux derniers qubits, doit avoir la valeur plus 1. Vous avez aussi une parité qui doit être 1 si vous prenez les deux qubits extrêmes, Et vous avez aussi la même parité si vous prenez les deux premiers qubits, mais cette information sur les deux premiers qubits, elle est déjà contenue dans l'ensemble de ces deux corrélations. Si vous avez le dernier qubit qui est corrélé avec celui du milieu et avec le premier, eh bien, vous avez cette corrélation des deux premiers qubits. Bon, ça, c'est la première propriété, la parité, finalement, des qubits. Mais pour spécifier complètement cet étagage Z, il faut inclure une troisième condition qui est que cet étagage Z, c'est l'opérateur qui diagonalise cette mesure ici, que l'on peut voir aussi comme un opérateur qui flippe, qui inverse tous les qubits en même temps. On passe de l'état 0, 0, 0 à l'état 1, 1, 1 et vice-versa. Donc, cette opération ici laisse cet état invariant et correspond à une valeur propre plus 1. L'état conjugué ici, GHZ moins, si vous voulez, a une valeur propre égale à moins 1 pour cette opération. Mais les conditions de parité restent les mêmes, ce qui, justement, c'est une propriété qu'on va exploiter beaucoup dans la correction quantique d'erreurs. Mais pour l'instant, le but de l'algorithme que je vais vous présenter, c'est de préparer cet état. Comment, finalement, à partir d'opérations élémentaires, on va préparer cet état? Pourquoi on tient particulièrement à cet état, en dehors de la correction d'erreur, c'est que cet état, dans la hiérarchie des états des qubits, est le premier qui réalise une condition extraordinaire qui a été le travail finalement de Greenberger, Horn et Zeilinger, c'était de s'apercevoir que cet état possédait quatre opérateurs. Donc, j'ai cité le premier dans la liste, cet opérateur XXX, mais il y en a trois autres qui sont XYY, YXY et YYX. Je ne les ai pas inclus dans la description de l'état parce que, en fait, vous pouvez les obtenir très facilement en prenant celui-ci, en multipliant par ceci plus simple, les opérateurs de corrélation entre les qubits. Donc ces opérateurs à 3 qubits peuvent être mesurés simultanément. En fait, vous pouvez vérifier que ces 4 opérateurs commutent entre eux. Donc il est possible de prendre ce système et d'effectuer 4 mesures qui ne sont pas du tout incompatibles, qui correspondent à ces 4 opérateurs. Et en fait, dans l'état GHZ, par définition de ce stabilisateur, toutes ces quatre mesures doivent vous donner le résultat plus 1. Donc, si vous faites le produit du résultat de ces mesures, vous devez trouver plus 1. Voilà, ça c'est ce qu'un raisonnement classique devrait nous indiquer. Mais en fait, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Expérimentalement, tout à l'heure, Léo va vous montrer que ce n'est pas le cas. Pourquoi on est conduit à cette contradiction? Classiquement, le produit doit être moins 1. Si vous faites des calculs, si vous traitez ces symboles X, Y comme des symboles classiques qui obéissent à cette relation, après tout, X et Y mesurent si le spin est suivant plus X ou moins X. Et normalement, dans une vision classique du système, les nombres X valent plus ou moins 1. En fait, si vous faites le produit de ces opérateurs au sens classique et que vous pensez à ces symboles comme plus 1 ou moins 1, vous voyez que le produit doit vous nécessairement, classiquement, dans une vision classique, vous donner moins 1. Parce que dans chaque colonne, ici, vous trouvez chaque symbole deux fois, mais deux fois seulement. Donc, comme le symbole pris deux fois va nécessairement donner 1, vous voyez que vous aurez 1 dans chaque colonne, Maintenant, le moins 1, il correspond au fait que vous avez le signe plus ici, moins et moins et moins. Et donc, quand vous faites le produit de ces quatre opérateurs, eh bien, vous attendez à trouver moins 1. Mais en fait, expérimentalement, on trouve bien plus 1, ce qui permet d'éliminer les théories à variables cachées de la mécanique quantique. Vous ne pouvez pas penser à ces symboles en termes de variables aléatoires, ordinaires. C'est pas, ces symboles ne décrivent pas des objets statistiques aléatoires qui seraient plus 1 ou moins 1. Ils n'ont pas véritablement de valeur, on ne peut pas leur assigner de valeur à l'avance avant de faire la mesure. Une façon de commenter ce résultat. Vous voyez que vous pouvez parfaitement, si vous apprenez, si vous êtes familier avec cette théorie des stabilisateurs, vous n'allez même pas penser à effectuer ce genre de multiplication ici au sens classique. Donc, j'insiste bien sur le fait que ce paradoxe ici de GHZ, c'est en fait, provient d'une insistance à traiter les lettres X et Y comme des symboles ordinaires. Mais dès le départ, on a dit que c'était des symboles, des lettres qui ne commutaient pas. Donc, si en fait vous effectuez cette multiplication ici en respectant les règles de commutation des opérateurs de Pauli, vous verrez bien que vous trouverez bien plus 1. Donc, j'insiste bien sur le fait que tout est normal, tout va être conforme au résultat de la mécanique quantique, c'est simplement une vision classique erronée qui fait apparaître cette contradiction. Est-ce qu'il y a une question ? C'est un point évidemment particulièrement délicat. Là, nous, on a plutôt une attitude d'ingénieur quantique, c'est-à-dire qu'on réalise des machines qui se conforment à, comme finalement le veut les règles de la mécanique quantique, et on peut très bien ne pas développer ce genre d'arguments qui est un petit peu des arguments d'arrière-garde. C'est un petit peu comme vous pourriez aussi, par exemple, en électromagnétisme, insister sur le fait que les champs doivent être absolument locaux. Il y a exactement le même genre de contradiction que vous pouvez développer pour les équations de Maxwell. Les ingénieurs micro-ondes qui conçoivent des circuits ne se posent pas la question de savoir si les photons micro-ondes sont délocalisés ou pas. Ils l'acceptent comme quelque chose de naturel. Alors, comment pratiquement préparer cet état GHZ ? On part de la base de calcul qui est représentée par ce stabilisateur et on va faire agir trois opérations qui sont des opérations locales qui correspondent aux trois qubits. Ça va être trois flips et qui va nous amener dans cette base. Ce qui se passe là, c'est qu'on prend chacun des qubits, chacun des spins, et on fait une rotation de pi sur 2 autour de x. Voilà. Et maintenant, on va faire agir l'interaction entre le premier et le troisième qubit pendant ce temps égal à un demi-flip. Et on arrive à ce stabilisateur qui montre qu'on a créé de l'intrication entre le deuxième et le troisième qubit. Vous voyez, vous avez ces générateurs à deux qubits ici. Mais enfin, on a encore laissé celui-ci découplé. Et pour atteindre vraiment un état de type GHZ, il suffit de faire une deuxième interaction, mais cette fois-ci entre le premier et le second qubit. Voilà, donc on va coupler maintenant le premier et le second. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. On doit intriquer trois qubits à la fois, mais pour y arriver, il suffit d'intriquer le deuxième et le troisième, et le premier et le deuxième. Donc le premier et le troisième seront un peu intriqués, seront entraînés dans cette intrication. Alors, vous pouvez vous dire, mais ce que j'ai atteint, ce n'est pas du tout le stabilisateur qui représente GHZ. Alors, en fait, il est caché, mais par des opérations sur un qubit seulement. Par exemple, si vous appliquez cette opération qui permute les directions X, Y et Z, sur les qubits 1 et 3, vous pouvez prendre ce stabilisateur que vous avez réalisé et puis aboutir à celui-là. Et puis après, si vous transposez X et Y sur tous les qubits, eh bien, vous atteignez la forme recherchée avec modulo une interversion. Normalement, dans la forme que je vous ai montrée, ce générateur est en deuxième position, mais enfin, ça, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez que par une série d'opérations, on peut atteindre cet état qui est particulièrement intéressant. Bon, je vais passer sur ce point et je vais, puisqu'il n'y reste pas beaucoup de temps, vous parler de téléportation. La téléportation, elle commence à partir du théorème qui est appelé de l'interdiction du clonage en mécanique quantique. On ne peut pas si vous avez un qubit avec une fonction d'onde arbitraire, inconnue, c'est quelque chose dont on avait parlé dans le premier cours, on ne peut pas copier cet état. On ne peut pas, fabriquer un système qui serait un produit de ces deux fonctions d'onde, qui serait identique. On ne peut pas reproduire un état quantique. Si vous voulez transposer cet état quantique sur un autre qubit, eh bien, il va falloir le détruire le premier. Alors, j'insiste sur le fait que cet algorithme de téléportation est en fait quelque chose de très pratique ici. Hein. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose, c'est d'habitude présenté comme un peu la vie amoureuse de Alice et Bob, qu'on trouve en cryptographie, mais ces histoires, en fait, correspondent à des opérations que veulent réaliser les physiciens qui seraient très utiles. En fait, quand on écrit une ligne, quand on dessine une ligne correspondant à un qubit, c'est un objet physique. Donc cette première ligne ici, ça pourrait être un spin nucléaire, et cette deuxième ligne, ça pourrait être représenter un photon. Donc deux systèmes, deux implémentations très très différentes de l'information quantique, qui peuvent correspondre à des énergies très différentes. Ici, on peut avoir des micro-Kelvin, puis ici, on peut avoir des électron-volts, 10 000 Kelvin. Donc, les échelles d'énergie peuvent être très différentes entre ces deux porteurs d'information. Pourtant, on peut, et ça serait extrêmement souhaitable, d'effectuer un transfert d'information quantique d'un degré de liberté sur l'autre. Vous comprenez bien qu'à, par exemple, un spin nucléaire est un objet très découplé de l'environnement, donc c'est un système idéal pour la mémoire quantique, et la mémoire va vivre très longtemps si elle est implémentée dans un spin nucléaire. Par contre, les photons, ils peuvent voyager très loin le long de fibres optiques sans être atténués. Donc être capable de transposer l'information de spin nucléaire vers des photons, c'est en fait quelque chose qui a un intérêt pratique absolument considérable si vous pensez par exemple à un Internet, une version quantique de l'Internet. Donc ce problème de la téléportation est en fait très concret. Alors, ce qu'on peut arriver à faire, donc ce n'est pas une copie, mais c'est une transposition, c'est-à-dire que si vous avez une fonction d'onde implémentée sur un spin nucléaire, eh bien, vous pouvez prendre un photon qui va être dans un état bien défini, mettons la polarisation verticale, et puis vous allez transposer la fonction d'onde du spin nucléaire sur le photon, mais vous voyez que ce que vous devez faire, c'est nécessairement effacer l'information qu'il y a sur le spin nucléaire. Donc vous avez, c'est une espèce de fax, mais dans lequel l'original est détruit quand vous faites la copie. Voilà ce que vous devez faire. Alors, L'algorithme de téléportation, il provient du fait que cette double porte ici que vous devez réaliser dans cette opération de transfert, en fait, en pratique, peut ne pas être possible. Elle ne peut ne pas être possible pour deux raisons. Il peut très bien ne pas, vous n'avez peut-être pas d'interaction entre les spins nucléaires et les photons. Effectivement, ça c'est assez proche de la vérité. Ces deux systèmes interagissent si faiblement que toute interaction directe vous prendrait des siècles. Donc il n'est pas question de simplement de mettre ces systèmes ensemble et d'attendre qu'ils se mélangent. Ça c'est un premier problème. Et puis, même si c'était le cas, au moment où vous voulez faire l'opération, cette interaction pourrait ne pas être disponible pour un certain nombre de raisons pratiques. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle vous ne pouvez pas nécessairement faire ces opérations de façon aussi directe. Alors, l'algorithme de téléportation est merveilleux parce qu'il vous indique que malgré le fait que vous allez faire ni cette porte soit possible, vous allez quand même pouvoir effectuer ce transfert. Alors, pour comprendre ce qui va se passer, on va commencer par remplacer la deuxième porte. C'est la plus simple à remplacer. Vous voyez, c'est un contrôle note à l'envers. Alors, comment le faire? Eh bien, il faut utiliser les opérations de remplacement que je vous ai déjà indiquées. Donc, vous voyez, on commence par transformer ce contrôle note en contrôle Z. Il est flanqué de deux racines de Y, ici. Et comme on l'a vu, il y a cette réciprocité entre le bit cible et le bit de contrôle. Donc le contrôle Z, ici, je peux l'inverser. Vous allez voir où ça va nous mener, pourquoi c'est intéressant. Le fait d'avoir inversé le contrôle ici est intéressant parce que si vous regardez cette ligne, en fait, vous voyez, vous devez trouver 0 ici. Mais 0, finalement, vous pouvez le mettre à la poubelle. Il ne va rien vous servir à rien dans la suite des opérations. Donc là, on atteint quelque chose, une vérité profonde de la mécanique quantique, c'est qu'un bit que vous laissez libre et que vous ne réutilisez plus jamais, en fait, ça correspond à une mesure. Cette opération qui engendre un bit que vous n'allez plus jamais réutiliser, en fait, vous n'avez pas besoin de la faire stricto sensu. Il suffit qu'à ce point, vous remplacez le point ici par une mesure classique. Hein, de toute façon, la mesure est destructive, mais on s'en fiche, puisque finalement, on n'a plus besoin du qubit après. Donc, autant le connaître classiquement. Et après, avec le résultat de cette mesure classique, eh bien, on peut conditionnellement, mais de manière classique, c'est-à-dire en envoyant un bit classique, on peut effectuer cette porte Z ou ne pas l'effectuer. C'est beaucoup plus simple parce que le photon peut être... Vous pouvez agir sur sa polarisation avec un modulateur optique, un cousteau optique. Et ça, c'est une opération que vous savez faire. Parce que ici, ce bit classique, vous pouvez imaginer toute série d'amplifications sur ce trajet. Vous pouvez, pour faire cette rotation de la polarisation du photon, il va falloir appliquer des tensions assez importantes. Mais dans l'envoi de ce bit classique, vous pouvez avoir cette amplification. Donc, vous voyez, c'est un gain très appréciable. Vous avez remplacé cette porte qui apparaît quantique ici par, dans le fond, une porte, oui, quantique, mais beaucoup plus facile à réaliser parce qu'il s'agit d'une porte à un qubit contrôlée classiquement. Donc, Donc, on a réalisé la première partie du travail. Malheureusement, il nous reste à effectuer ce premier ici contrôle note qui lui est dans le sens ordinaire, et ça c'est plus subtil, beaucoup plus subtil, mais il est possible de le réaliser. Alors voyons comment on fait ça. Alors pour comprendre ceci, il faut que je fasse un peu un détour et vous expliquer ce que c'est que cet objet, qui est un peu l'équivalent de la lame séparatrice pour les qubits. C'est une porte qui contient une porte d'interaction à deux qubits et puis flanquée d'une rotation de pi sur 2 autour de x. Qu'est-ce qu'elle fait, cette porte? Elle nous fait passer de la base de calcul, ici, à la base de phase qu'on avait déjà vue. Cette base de phase très intéressante. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ce qu'elle fait, c'est que si vous prenez ce deuxième qubit ici et que vous tournez le spin, eh bien, l'état qui se trouve, que vous avez produit après cette porte, eh bien, n'est pas modifié. Les composantes de l'état ne sont pas modifiées. C'est uniquement les phases devant les fonctions d'onde que vous modifiez. Et en quelque sorte, vous répartissez l'information qui se trouve sur ce qubit rouge ici, vous l'avez diluée, vous l'avez répartie sur le fil bleu et sur le fil rouge à la fois. C'est exactement comme une lame séparatrice. Vous imaginez qu'il y a un photon qui atteint la lame, il y a un autre port dans la lame qui est l'autre côté, où vous avez envoyé, où vous ne voyez rien, c'est le vide. Ici, ce photon ici va être en quelque sorte se retrouver coupé en deux. En fait, c'est bien sûr plus subtil que ça, mais la fonction d'onde du photon est maintenant répartie sur ces deux faisceaux. C'est ce qui se passe ici. Alors, si on dit lame séparatrice, on dit interféromètre. Si je combine deux lames séparatrices comme ceci, je vais pouvoir effectuer un chemin optique très intéressant, dans lequel finalement un photon se retrouve à un moment donné sur deux rayons à la fois. Ces deux rayons se recombinent, mais on a une possibilité d'interaction ici sur le système qui est très précieuse. En effet, regardez ce qui se passe ici. Là, le langage des stabilisateurs est très adapté à l'examen de ce phénomène. Donc, Je suis passé de cette base ici, cette base de calcul, à cette base de phase. Voyez que cette base de phase est décrite par deux générateurs à deux qubits. Et si vous examinez ce deuxième générateur qui porte les signes plus ou moins ici, qui correspondent à en fait ces deux cas ici, voyez que si vous agissez sur le fil bleu ici, vous pouvez agir sur ce deuxième générateur. Donc en fait, vous pouvez changer le résultat de ce qui sort en agissant sur le fil bleu seulement. C'est extrêmement précieux. Si vous n'avez pas d'interaction avec le fil rouge, si vous ne pouvez pas, si votre spin nucléaire ne peut pas agir sur le photon ici, vous pouvez quand même agir sur ce système bleu qui pourrait, par exemple, ce système bleu pourrait être un électron qui est capable d'interagir d'un côté avec le spin nucléaire et d'un autre côté avec la lumière. Donc, à partir d'un système intermédiaire, vous allez effectuer un contrôle très précieux. Vous voyez, c'est une expérience d'interférométrie avec des qubits. Si vous intercalez cette porte X, c'est-à-dire si vous faites un flip de ce qubit bleu, eh bien, dans le langage de l'interférométrie, vous avez mis un phase shift sur cette voie. Et cela correspond à, vous voyez, vous avez fait une espèce d'aiguillage, c'est-à-dire qu'en introduisant ce contrôle sur ce fil, eh bien, vous avez aiguillé le photon d'un faisceau sur l'autre. Vous avez effectué un contrôle à distance, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler l'information qui est transmise sur ce fil rouge, qui est portée par le qubit rouge, à partir du qubit vert, ici, par l'intermédiaire du qubit bleu. Donc c'est tout à fait extraordinaire, mais finalement c'est aussi la conséquence du fait que de la réciprocité de l'interaction en quelque sorte. Si vous voulez que 1 et 3 interagissent, il suffit que 1 interagisse avec 2 et 2 avec 3. Voilà, donc on va utiliser l'algorithme de téléportation, utilise ce phénomène. Je remplace la porte contrôle X ici, en introduisant un qubit auxiliaire, ce qubit bleu, qui peut être un électron, qui va servir de médiateur entre le spin nucléaire et le photon. Et voilà, bon, c'est quand même un peu lourd, hein. Il faut quand même réaliser toutes ces opérations. Vous voyez, ça fait en quelque sorte 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes ici. Mais ce contrôle à distance va vous permettre de réaliser cette téléportation. Comment faut-il faire ? Vous avez cette première partie de l'algorithme où vous avez finalement intriqué ce qubit bleu et le qubit rouge. Vous avez fait une paire intriquée. Et cette paire intriquée vous sert de ressource dans cette deuxième phase pour la téléportation. Ici, vous voyez, j'ai utilisé une deuxième fois ce truc si vous devez faire une porte à deux qubits et que si un qubit est perdu pour toujours, eh bien, vous n'avez pas vraiment besoin de la faire. Vous pouvez la remplacer par une mesure ici et une porte classique conditionnée classiquement. Au total, vous voyez que vous arrivez à transporter cette fonction d'onde psi du qubit vert au qubit rouge en effectuant essentiellement à l'instant où vous voulez effectuer le transfert, parce que cette préparation peut être faite à l'avance, eh bien, vous devez faire ce contrôle note, cette rotation de pi sur 2 seulement, et deux mesures de ces deux qubits, et envoyer le résultat de ces mesures à ces portes de contrôle ici, de rotation autour de Z. Vous avez transporté la fonction d'onde. C'est quelque chose assez remarquable quand vous y pensez, parce que psi ici est une combinaison linéaire arbitraire de 0 et de 1. Vous avez deux coefficients qui sont deux nombres réels. Et en quelque sorte, vous avez l'impression que vous transportez deux nombres réels ce système à ce système par deux fils qui portent simplement deux bits classiques. C'est quand même assez extraordinaire. Ceci vous montre que les coefficients de la fonction d'onde, les amplitudes de la fonction d'onde, ne sont pas finalement ne peuvent pas être conçues comme des variables dynamiques. Ce ne sont que finalement ces coefficients décrivent un ensemble, puisque cas par cas, qubit par qubit, cette téléportation de la fonction d'onde demande simplement deux bits classiques. Il faut évidemment avoir au préalable possédé cette paire intriquée qui transporte, si vous voulez, c'est elle qui effectue le transport finalement du caractère quantique de cette fonction d'onde. Je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.